Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
On est de retour en nombre, donc suite à la chronique très intéressante d'Enzo, on va poursuivre sous la forme d'une discussion ouverte.
Ouais, justement, là, ben, j'ai suite à justement à tout ce que tu as dit, Enzo, moi j'ai vu dernièrement là, qu'il y avait eu un appel de plus d'une cinquantaine d'organisations écologiques en soutien à la colère des agriculteurs tels que Terre de lutte, France Nature Environnement, Extinction Rébellion, Greenpeace. Je ne sais pas, est-ce que tu as vu, toi, des actions, par exemple, très concrètes de ces groupes-là en France? Là, je te relance la parole directement.
Et merci, mais oui, c'est très intéressant et c'est majeur, en fait, le sujet que tu lances, la cause environnementale. Effectivement, on a pu voir, en fait, dans les médias français ou dans les médias tout court, qu'il y avait une espèce d'opposition qui pouvait s'installer entre les agriculteurs et les écologistes. Certaines prises de parole disaient que c'était à cause des mesures environnementales ou de la mouvance écologiste que cette crise-là se développait. Moi, je veux quand même rappeler aux gens que c'est pas les écologistes hein, qui sont au pouvoir depuis 30 ans. Ils ont jamais été au pouvoir d'ailleurs. C'est par rapport aux mesures libérales et les mesures d'austérité sur les agriculteurs qui a lieu depuis des années et des années. Deuxièmement, effectivement, là, tu parles d'organisations écologiques qui soutiennent, et c'est intéressant. Mais en fait, la chose, c'est que comme c'était des mesures qui pouvaient paraître écologiques, un peu comme la taxe carbone, mais qui en réalité, si tu mets pas d'alternative à ces mesures-là, il n'y a pas vraiment d'intérêt et d'impact écologique, en réalité. Donc oui, c'est vrai qu'interdire le glyphosate ou interdire certains phytosanitaires, pouvait paraître écologique. Bon, encore ça, c'est discutable parce que tout un tas de produits phytosanitaires sont tenus par des lobbies qui sont souvent en lien avec le gouvernement. On voit que le glyphosate, justement, son interdiction a été repoussée en 2027. Donc, au-delà de l'interdiction de produits phytosanitaires, c'est plus que, encore une fois, c'est plus la concurrence entre le fait que la France ne peut pas utiliser certains produits et que les pays étrangers peuvent et vendent leurs produits sur le territoire à moindre coût. Au-delà de ça, on peut effectivement faire une convergence des luttes entre la lutte des agriculteurs et la cause environnementale. Et donc, je comprends effectivement, et c'est presque même logique, que ces organisations écologiques signent cette tribune en lien avec les agriculteurs. Parce qu'effectivement, c'est toujours intéressant de vouloir interdire, en ce moment on est vraiment dans ça, dans les politiques d'austérité. Alors on veut interdire le nucléaire, on interdit les phytosanitaires, on veut interdire, c'est tout un tas de choses qu'on entend, on veut mettre la taxe carbone sur les gens qui utilisent l'essence, mais il y a rarement d'alternative. Et en fait c'est ça, faire des mesures d'austérité, faire des interdictions sur le papier, ok, mais s'il n'y a pas d'alternative pour les travailleurs, c'est un vrai problème. Et là on le voit pour les agriculteurs, bah, c'est un vrai problème parce que leur interdire l'utilisation de produits phytosanitaires, mais en faisant baisser leur coûts et en faisant rentrer des concurrents déloyaux sur leur territoire, qui fait qu'ils auront impossibilité de vendre leurs produits, il y a un vrai problème. Alors que le fait que des organisations écologiques entrent dans ce débat, c'est intéressant parce que c'est eux qui pourraient nous offrir cette alternative. Et oui, il faut interdire en fait le glyphosate. Oui, il faut interdire les produits de Monsanto qui stérilisent nos plantes et qui détruisent notre écosystème. Mais il faut une alternative. Parce que s'il n'y a pas d'alternative, bah, y a ce qui se passe en ce moment. S'il n'y a pas d'alternative à cette taxe sur le carbone, bah, les gens qui l'utilisent bah, auront des problèmes. Et souvent, ces travailleurs ou ces agriculteurs ne peuvent pas aller eux-mêmes chercher ces alternatives qui sont coûteuses. Donc oui, il faut des alternatives. Il faut un développement à moindre coût, peut-être du bio. Ou il faut peut-être, et c'est la revendication principale, il faut imposer aux grandes entreprises phytosanitaire, au lobby dont Monsanto, Bayer, aux grandes entreprises agroalimentaires, il faudrait peut-être imposer ça sur une échelle bien plus grande et interdire la production et la vente d'entreprises qui ne le font pas. Donc voilà, c'est tout un tas de... Donc réfléchir à des alternatives, réfléchir à comment bloquer ces pays et ces entreprises qui ne respectent pas ces normes environnementales. Et lier effectivement et faire converger la lutte environnementale et la lutte sociale, car elles sont liées complètement.
Oui, c'est ça, parce qu'à la fin de la journée, on a besoin de ces agriculteurs-là, on a besoin justement qu'ils travaillent, il faut les aider dans ce sens-là. Puis tu sais, oui, comme tu disais, c'est super important au final d'interdire le glyphosate, parce que si je me souviens bien, notamment c'est cancéreux. C'est cancéreux, il va falloir les interdire, mais on peut pas juste dire aux agriculteurs, excusez-moi l'expression, mais démerdez-vous, vous avez plus le droit d'utiliser ça, puis il n'y a pas d'autre alternative. Il leur faut des moyens d'être capable de maintenir un certain niveau d'efficacité de production face justement au commerce international. C'est nécessaire. Puis, tu sais, si je me souviens bien, là, ça a été un des grands sujets de renégociation de l'ALENA, justement, par rapport au lait québécois, je crois, là, si je me souviens bien, pour que... D'ailleurs, on a perdu, justement... le commerce du lait québécois a perdu, justement... de la place, et justement il y a des laits américains maintenant qui sont sur les étagères comme ça, fait que j'imagine c'est un petit peu dans la même idée là. Il faut protéger justement nos producteurs agroalimentaires
là. Mais complètement, on parle de la France parce que c'est vrai que ça a un raisonnement particulier, parce que le mouvement social il est gros, il est puissant, il est impactant. On voit qu'il y a eu des actions qui ont été assez virulentes de la part des agriculteurs. Après ça c'est un autre débat, hein. Est-ce qu'on est en accord ou pas avec les actions, c'est un autre dégât. En tout cas, les revendications, elles, sont complètement légitimes. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la France, parce que les actions sont importantes. Mais effectivement, cet enjeu-là, il est international. Comme tu le dis, on voit la même chose sur le territoire canadien, sur la concurrence entre les produits canadiens et les produits américains, qui, les produits américains, ont également moins d'interdictions et sont vendus à moindre coût également. Et c'est pareil sur toute l'Europe. On voit que les agriculteurs néerlandais et allemands aussi subissent la même austérité et la même concurrence déloyale, et d'ailleurs rejoignent la mobilisation. Et là, ce matin, parce que c'est un sujet intéressant, mais qui évolue constamment. Donc là, je parle, mais peut-être que dans deux heures, ça évoluerait différemment. Ce matin, en arrivant à la radio, il y a eu une nouvelle qui est tombée, comme quoi les agriculteurs et les syndicats espagnols annonçaient rejoindre le mouvement français et le mouvement européen général. Donc oui, en fait, cette mondialisation et cette globalisation du marché fait que cet enjeu-là est un enjeu international. Ouais.
Puis c'est ça, ne soyez pas surpris là à la maison, justement, qu'il y a une augmentation que vous pouvez considérer outrageuse du prix de l'épicerie. C'est directement en lien avec ça. Là. C'est
L'inflation est une des conséquences de cette concurrence déloyale. Effectivement.
Il y a aussi un enjeu, comme vous mentionnez, les gars, de sécurité alimentaire, c'est qu'elle importe beaucoup des produits alimentaires qu'autrefois, avant, elle était autosuffisante, qu'elle pouvait... c'est ça, qu'elle était autosuffisante, excuse.
Tu parles dans cet import-export qu'on est rentré dans un marché...
Exactement. Je lisais récemment que la France importe aujourd'hui 70% de ses fruits, 30% de ses légumes et 50% de ses poulets. Alors qu'elle le faisait pas il y a une décennie ou deux.
Ouais, c'est clair. De ce que j'ai entendu de beaucoup de revendications, c'est que beaucoup parlent de revoir en fait les traités, parce que là on n'est plus sur des traités de libre-échange. C'est pas l'idée des traités, là c'est complètement libre et les importateurs, les exportateurs font ce qu'ils veulent. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui parlent de revoir ces traités, d'y mettre plus de règles en fait, de voir qu'est-ce qu'on importe, qu'est-ce qu'on exporte, de quoi nous avons besoin, qu'est-ce qui est nécessaire. Il y en a qui parlent de revoir quels produits exotiques seraient sur le territoire, ces choses-là. Mais en même temps, il faut aussi qu'on traite avec cette mondialisation. Parce que je parlais encore, est-ce que la politique de l'interdiction est encore valable, ou moi, je pense que ce qui serait intéressant, ce serait des alternatives. Encore une fois, parce que je pense que on pourra pas priver demain matin les gens de produits étrangers, comme d'interdire du jour au lendemain le café, les ananas ou le. Je pense qu'il faut réussir à pallier à ce problème avec des alternatives plus qu'avec des mesures d'austérité, parce que dans la mesure actuelle, ça serait compliqué d'imposer ces mesures d'austérité. Après, ces alternatives, justement. Comme disait mon collègue tout à l'heure, je pense que ces alternatives, il faut les lier entre la crise sociale, environnementale et agricole. C'est vers ça que doivent aller ces alternatives.
Que justement, là, qui va refuser de ne pas avoir qui va être capable de se priver d'avocat là, d'ici demain là, t'sais. Tout le monde consomme des avocats, puis je tiens à dire, c'est absolument délicieux, là. Mais probablement un des produits les plus terribles, justement, là, à consommer, à encourager, justement.
Le soja.
Ouais, tout ce qui a rapport à ça, c'est un peu terrible. Mais c'est qu'on est rendu habitué avec ça. Et justement, c'est pour ça qu'il y a eu comme plein d'encouragements, justement, à acheter des produits saisonniers, là, dans les dernières années. Donc, tout ce qui se produit en saison, notamment dans ton propre pays ou dans ta propre région. Là.
Mais c'est un vrai débat. Est-ce que le problème, c'est la mondialisation? Bon, finalement, qui a peut-être un côté... Pas forcément la mondialisation libérale avec tous ses intérêts, mais le fait d'avoir des produits qui viennent de l'étranger à une vitesse assez grande, certains pourraient voir ça comme un progrès. Et le problème, est-ce que c'est cette mondialisation? Ou le problème, est-ce que c'est ce dont je parlais tout à l'heure, qui sont les grandes entreprises et les de l'agroalimentaire, les grands magasins de l'agroalimentaire qui augmentent leur marge de profit et qui profitent de la crise inflationniste pour augmenter leur marge de profit tout en réduisant celle des agriculteurs. Est-ce que le problème, ça serait pas plus ça, en fait, que l'importation de produits étrangers, finalement? Ou est-ce que le problème, ça serait pas justement la libéralisation des produits phytosanitaires développés par les grandes entreprises phytosanitaires? Donc voilà, est-ce que et aussi de revoir qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on surproduit, qu'est-ce qu'on sous-produit?
On est de retour en onde. Je vais laisser la parole à mon collègue Enzo pour sa chronique sur les agriculteurs en Europe et en France en général.
Oui, effectivement, chers auditeurs, je vais vous parler de la crise sociale qui se déroule en ce moment en France, du côté de nos agriculteurs. Comme vous avez peut-être pu le voir, parce que ce mouvement prend de plus en plus d'ampleur, depuis 10 jours, les agriculteurs français déploient un grand mouvement social en France qui passe par plusieurs actions, notamment le blocage des autoroutes, notamment les autoroutes les plus fréquentées. Ça va être des mouvements et des actions menées directement sur les lieux publics, les lieux de l'État, comme des préfectures, ou directement liés à des grandes surfaces et au mania de la grande distribution, qui, vous allez le voir, sont un peu la cause, une partie des causes de ce mouvement. Donc voilà, il y a plusieurs causes effectivement à ce mouvement. Il y a l'interdiction de produits phytosanitaires qui a été posée sur le territoire français. Voilà, effectivement, il y a eu plusieurs produits phytosanitaires qui ont été interdits ou qui veulent être interdits par le gouvernement français sous prétexte de mesures écologiques. Qui sur le papier peuvent être très louables, sauf qu'il n'y a aucune alternative à ces restrictions de produits phytosanitaires. Effectivement, les produits phytosanitaires, comme on le sait, comme le glyphosate ou tous ces engrais chimiques, notamment financés et produits par des grands manias, comme notamment Bayer, Monsanto ou Unilever, qui produit en partie ces firmes, sont des produits lourdement cancérigènes, qui sont des produits qui sont lourdement dangereux aussi bien pour les consommateurs, pour les producteurs et les agriculteurs. Mais ces produits permettent en même temps un rendement très favorable à l'agriculture et un coût bien moindre, parce qu'elle permet de réduire les coûts de production, car elle permet d'utiliser moins de machines, moins de personnel. Et donc, dans une situation où les agriculteurs sont déjà très peu rémunérés en France, il faut savoir qu'en moyenne, les agriculteurs ont du mal à se verser le salaire minimum en France. Il y a La grande majorité des agriculteurs n'arrivent même pas à se verser plus de 1100 euros, qui est le seuil de pauvreté en France, et n'arrivent même pas à rembourser la plupart de leurs charges. Donc déjà, il y a ce postulat-là en France. Et en plus, ces normes environnementales font donc les coûts de production deviennent plus grands et donc la pauvreté du monde agricole se fait encore plus ressentir. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas d'alternative à ces produits phytosanitaires. Deuxièmement, parce qu'il y a la PAC, qui était l'aide pour les agriculteurs qui avait été signée par le traité de Rome, qui baisse et qui est moins importante, notamment avec l'arrivée de nouveaux marchés, comme l'arrivée du bio. La PAC n'est pas directement impactante sur ces marchés-là. Puis l'inflation n'a pas été pris en compte par la PAC. Il y a eu des grandes problématiques pour les agriculteurs, notamment des cas de grippe aviaire, notamment en Espagne et en France. Et aussi, la grande critique de nos agriculteurs, c'est lié au libre marché et à la mondialisation, car en fait s'impose une énorme concurrence déloyale avec l'entrée sur le marché européen de produits qui ne respectent pas ces normes liées aux produits phytosanitaires. Car comme on le sait, avec le libre-échange, la France exporte de nombreux pays et importe de nombreux pays. Ce qui fait que sur le même territoire, mais ça c'est aussi c'est vrai pour tous les pays européens, sont en concurrence des produits français qui, eux, subissent la répression et l'interdiction d'utilisation de certains produits phytosanitaires qui sont mis directement en concurrence avec des produits qui sont hors Union européenne, qui, eux, ont le droit d'utiliser ces produits. Ce qui fait que donc le consommateur qui voit lui aussi son pouvoir d'achat baisser va se diriger vers ces produits étrangers à moindre coût, faisant encore plus baisser le salaire des agriculteurs français. Ce qui fait que les agriculteurs français vont presque vendre à perte à des pays étrangers, plus que sur le territoire français eux-mêmes, et vont d'ailleurs devoir gaspiller une grande partie de leurs marchandises qu'ils n'arrivent pas à vendre, ce qui est une absurdité dans le monde actuel. Les travailleurs français sont les travailleurs du monde agricole français sont les travailleurs qui font le plus d'heures de travail. C'est 55 heures de travail selon l'INSEE. Et comme on le dit, un autre problème au-delà de la concurrence déloyale, c'est les géants de la grande distribution. Eh oui, les géants de la grande distribution qui font appel notamment à des centrales d'achat pour baisser les contraintes financières, pour faire pression sur les prix. Et également qui augmentent leur marge de profit de plus en plus, ajouté à l'inflation. Ce qui fait que ce que gagnent les agriculteurs sur leurs propres produits baisse de plus en plus. Les agriculteurs baissent le prix de leurs produits de plus en plus, mais les manias, les capitalistes qui détiennent la grande distribution, eux augmentent leur prix et en fait profitent de l'inflation pour faire une plus grande marge de profit. Donc ce qui est un coût énorme sur le consommateur, mais aussi sur l'agriculteur, qui est le premier producteur de nourriture, qui sont ceux grâce à qui nous sommes nourris. Encore une fois, ça fait partie de ces professions qui sont mises à genoux, mais qui nous tiennent debout finalement. Ensuite, il y a eu des annonces du gouvernement, du nouveau Premier ministre, du tout nouveau Premier ministre Gabriel Attal, qui fait ses armes. Voilà, c'est intéressant. Donc voilà, il a fait ses annonces. Donc il a annoncé que la hausse des taxes sur le gasoil, qui avait aussi impacté les agriculteurs, qu'en fait la hausse des taxes sur le gasoil, la GNR, qui était un gasoil qui touchait uniquement le monde agricole. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que la hausse du prix du gasoil est aussi une des raisons de ce mouvement social. Ça rappelle un petit peu les gilets jaunes qui étaient montés au créneau par rapport à la taxe carbone. Le Premier ministre de la France, Gabriel Attal, a annoncé qu'il y aurait une moins grosse baisse que prévu sur cette taxe. Il a annoncé des mesures de simplification administrative parce que c'est vrai que les agriculteurs croulent sous la bureaucratie et des milliers de papiers à gérer chaque année. Il a annoncé qu'il y aurait un appel aux cantines françaises à cuisiner et à acheter davantage de produits français. Il a appelé les préfets à régler des questions qui pouvaient être résolues à l'échelle locale. Et il appelle au développement d'un fonds d'urgence, notamment pour les agriculteurs en situation de crise, notamment pour les agriculteurs bretons qui ont eu le passage de la tempête Kiran. Aussi pour les régions du sud et notamment du sud-ouest qui ont été touchées par la grippe aviaire, et un fonds d'urgence aussi pour le domaine du bio, qui est un domaine aussi en souffrance. Donc voilà, il dit que la France s'opposera aux accords du libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Bon, malgré ces prises de parole, les promesses du gouvernement n'ont pas convaincu les agriculteurs qui vont prolonger la grève. Pour plusieurs raisons, ils trouvent que ces paroles-là sont du vent, ils trouvent que ces promesses sont jugées insuffisantes face à la situation que vivent les agriculteurs, qui est une immense situation de crise. Ils trouvent que ces paroles sont creuses et ont déjà été entendues plusieurs fois sans qu'il y ait de réelles conséquences, notamment pour la France qui dit s'opposer au traité du Mercosur, alors qu'il y a quelques jours, elle continuait à signer des traités de mondialisation pour faire rentrer justement des concurrents internationaux sur le marché français. Donc voilà, face à cette non-satisfaction des agriculteurs, et on peut la comprendre, car les agriculteurs, comme je le disais, vivent une crise qui en fait dure depuis bien des années, et je pense qui dure depuis très longtemps et qui a encore plus sévi depuis la libéralisation du marché avec la question de l'Union européenne et de l'euro. Donc face à ça, les agriculteurs et les syndicats agricoles vont poursuivre le mouvement social et l'élargir face à ces mesures jugées trop creuses. Donc les agriculteurs ont annoncé un siège de la capitale, un siège de Paris et un blocage du pays. Il y a pour l'instant 8 autoroutes qui ont été bloquées depuis ce matin, 10 heures. Beaucoup de personnes font une comparaison de ce mouvement entre ce mouvement et le mouvement des Gilets jaunes, qui avait pour intérêt aussi revendication de bloquer le pays pour faire réagir les politiques et l'ensemble des travailleurs. Donc voilà, ce mouvement va prendre de plus en plus d'ampleur, et on le voit aujourd'hui, on a pu le voir dès ce matin que la capitale a commencé effectivement à être bloquée, qu'il y avait de plus en plus de grandes villes et d'autoroutes qui avaient été bloquées. Les agriculteurs touchent directement les grandes entreprises dont je parlais tout à l'heure, qui sont les géants de l'agroalimentaire, et il y a de moins en moins de produits en rayon, donc le mouvement fonctionne. On va voir quelles conséquences cela va avoir. Je sais qu'il va y avoir une nouvelle prise de parole du gouvernement cet après-midi. Et voilà, c'était pour rappeler en tout cas cette situation que vivent les agriculteurs. Et pour conclure ma chronique, pour conclure cette prise de parole, je veux rappeler que c'est deux agriculteurs qui se suicident par jour en France, que le risque de suicide chez les agriculteurs, il est 43% plus grand que dans les autres professions. Et que les agriculteurs touchent en moyenne 500 euros de salaire en France. Donc voilà, c'est peut-être une des professions qui a été la plus touchée par la mondialisation, la libéralisation du marché et par l'inflation. Donc voilà, je vais laisser mes collègues intervenir sur ce sujet. Merci.
Très intéressant, Enzo, comme sujet. On va poursuivre après une brève pause publicitaire.